savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Elisabeth Le Quéré.
Bienvenue dans tous les cinémas du monde. Cet été, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir les émissions spéciales concoctées au fil de la saison. Ce samedi, une émission consacrée à la représentation de la politique dans le cinéma français contemporain. Entre intrigue, vengeance, stratégie personnelle, le milieu politique semble se prêter plutôt bien à un traitement cinématographique. La dernière campagne électorale présidentielle en France n'a d'ailleurs pas manqué de rebondissements. Entre l'histoire de François Fillon, promis à l'Élysée et dont on découvrait semaine après semaine le goût pour l'argent et les emplois présumés fictifs de sa femme et ses enfants, un frondeur, Benoît Hamon, investi à la surprise générale par son parti politique au bord de la crise de nerfs, et l'héritière d'un empire d'extrême droite aux portes du pouvoir. La présidentielle française qui a finalement abouti à l'élection d'un jeune homme, Emmanuel Macron, encore inconnu du grand public il y a plus de 2 ans, a réservé aux électeurs nombre de surprises. En pleine folle campagne, nous avions eu envie de consacrer une émission spéciale à la représentation du milieu politique, du pouvoir à l'écran. Nous avions convié à nos côtés 2 jeunes réalisateurs français, auteurs de films récents remarqués. Pierre Scholler, bonjour.
Bonjour.
Vous avez signé en 2011 l'exercice de l'État. Et vous, Nicolas Pariser, bonjour.
Bonjour.
Le Grand Jeu, votre premier long métrage, est sorti en 2015. Alors j'en parlais, l'émission ne va pas être consacrée à la campagne. Néanmoins, c'est vrai que cette campagne présidentielle, cette campagne électorale nous fournit l'occasion de nous pencher sur la représentation du pouvoir. Vous, en tant que vous tous deux, Pierre Scholler, Nicolas Pariser, quand vous lisez les rebondissements de cette campagne électorale, vous êtes évidemment des citoyens, mais est-ce que vous avez ce regard de dramaturge complètement ébaudi par les événements? Nicolas Pariser.
Moi, en réalité, pas vraiment. Je trouve pas cette campagne particulièrement romanesque. Je trouve qu'il y a succession de concours de circonstances malheureux, souvent assez pitoyables, et disons que ça ne fait pas du tout travailler mon imagination. Voilà. Mais après, j'ai même envie de dire que c'est une campagne que je suis parce que c'est une campagne qui m'angoisse, mais j'y éprouve même pas de plaisir coupable, je dirais. Voilà.
Mais... Pierre Scholler.
Moi, je vous dirais que les Grecs avaient 2 critères pour la tragédie, dont pour faire au moins des critères, mais vraiment des critères sérieux, des critères coercitifs. Et il y avait la bienséance. Il fallait pas contrevenir à la bienséance dans un texte classique. À ce titre de la bienséance, je trouve que la campagne est très mauvaise en fait.
Et de tous les candidats et de toutes les candidates en lice, est-ce qu'il y en a un qui vous semble spécifiquement cinégénique? Nicolas Pariser.
Non, aucun. Je trouve pas dans le monde politique français aujourd'hui et depuis peut-être 30 ans que je la suis de loin ou de plus près, de matière réellement excitante pour faire des films ou pour inventer des histoires, enfin voilà.
Alors du coup, qu'est-ce qui vous a excité, pour reprendre ce terme, Pierre Scholler, Nicolas Pariser, dans l'écriture et donc d'une fiction, un film, en l'occurrence pour vous, Pierre Scholler, l'exercice de l'État, pour vous, le Grand Jeu, puisque quand même vous intéressez au milieu, au rouage, aux coulisses, je ne sais pas comment vous direz, de la politique. Quelle était l'envie première à l'origine, Pierre Scholler, pour l'exercice de l'État?
Ça remonte à loin, parce que le film est sorti il y a 5 ans, en pleine primaire socialiste, et j'avais mis à peu près 8 ans entre l'idée première et le film fini. Dans les 8 ans, il y a évidemment eu un autre long métrage qui était Versailles. Mais l'idée est vraiment de consacrer un récit et un film à ce qui se passe dans un ministère, du côté de la prise de décision, parce que c'est ça qui m'intéressait, c'était la prise de décision. C'était les questions d'arbitrage, de comment se décide une loi, et très tôt la question de la puissance politique. On sait bien que dans un ministère, c'est le lieu où les projets de loi se font ou se défont, grossièrement, hein, schématiquement, où l'action de la réforme a lieu ou n'a pas lieu. Et donc je me disais, donc le constat, on le sait tous, et quand on gratte un peu, on s'aperçoit que des rapports, des projets de réforme, des mesures emblématiques, comme par exemple le droit de vote des étrangers, sont des choses qui sont sur la table, mais qui ne passent pas, où ça n'agit pas. Donc il y a un endroit où ça doit bloquer, il y a un endroit où à la fois ça agit et ça agit pas. Et c'est ça qui était l'idée première de se mettre dans ce ministère, et après j'ai commencé à fictionner.
En l'occurrence, le ministère, c'est le ministère des Transports. Michel Blanc, donc l'acteur et directeur de cabinet du ministre, c'est un grand commis de l'État. Et dans l'extrait qu'on va écouter, il s'entretient avec son homologue du budget, incarné par Didier Besas. Ce dernier vient le mettre en garde. La privatisation des gares aura bien lieu, n'en déplaise au ministre des Transports, Bertrand Sergent.
Alors dans ce cul de basse-fosse, tu préfères respirer l'air frais du privé ?
De Vinci, oui.
Vinci.
Attends.
De notre promo, c'est toi qui avais le plus de talent.
Gilles, je suis venu te dire qu'ils sont déterminés. Le statut des gares a basculé tôt ce matin.
Qui t'a proposé ?
On s'en contrefout ! C'est fait ! Je prends Vinci, on crée une filiale à capital mixte, on veut les gares, on les aura, point barre. Tu n'as plus que quelques heures devant toi.
Pour ?
Pour convaincre ton patron de réformer le statut des gares. Sinon, on vous dégagera. La messe est dite. Hein. Si, la messe est dite, Gilles. Et ce que je le fais pour toi, parce que personnellement, j'aurais pas misé un copec sur Saint-Jean. Enfin bon, ça, c'est ton choix depuis des années.
Je vais te dire pourquoi je crois en Bertrand. Il n'appartient pas, comme nous, au sérail des grands dirigeants ou des hauts fonctionnaires. Il n'est pas un héritier. C'est son seul point commun avec notre président.
C'est le seul, mais il est de taille.
Un homme comme Saint-Jean et l'annonce d'un nouvel usage. C'est la fin de notre règne.
Un extrait de votre film, Pierre Scholler. Deux hauts fonctionnaires, deux façons d'envisager la res publica, la chose publique. L'un, c'est Michel Blanc, le devoir, la conscience surveillée au corps. Lui, il croit que son ministre, incarné par Olivier Gourmet, résistera aux tentations du pouvoir, résistera et campera sur ses convictions, ne pas privatiser les gares. Et l'autre, c'est Didier Besas, qui est beaucoup plus, on va dire, cynique ou réaliste.
Le personnage de Didier est à la croisée des intérêts privés et publics. Assez tôt, s'aperçoit que les questions de pouvoir sont assez, sont difficiles à cerner et sont pétries d'ambiguïté et de zones d'ombre, de zones floues, de zones grises. Et dans cette scène, c'était une des manières de délimiter le pouvoir politique et le pouvoir économique. Et c'est pour ça que l'un engueule l'autre d'une certaine manière. Et c'est le pouvoir économique qui engueule le pouvoir politique.
Et votre film...
Non, peut-être pas...
je suis intéressé. Moi, j'ai pas du tout... disons que dans ma démarche, je parle pas exactement des mêmes choses. D'ailleurs, c'est très bien qu'on parle pas exactement des mêmes choses. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est véritablement, en fait, le moment de la prise du pouvoir. Et puis... je dirais la personne qui est en position de pouvoir dans un milieu où il y a du pouvoir. Et ce milieu-là, il est effectivement pour le coup, il m'intéresse beaucoup et il a quelque chose de fascinant. Mais à la limite, il a rien à voir avec l'exercice du pouvoir lui-même. C'est-à-dire que par exemple, pour prendre un auteur, disons que qui m'a beaucoup influencé, disons et qui a fait que je me suis intéressé beaucoup plus tard à ce sujet-là, c'est Balzac. Balzac montre sans arrêt des gens qui complotent pour arriver au pouvoir, montre disons les collusions entre les milieux financiers, les milieux politiques, etc. Et moi, j'ai jamais fréquenté véritablement le milieu politique, je dirais adulte, mais j'ai un peu fréquenté le milieu politique, disons étudiant, syndicaliste, plus jeunes. Ce sont des milieux où les cercles de pouvoir ont comme une intensité qui attire comme un aimant des insectes. Voilà. Il y a des gens qui veulent absolument en être. Et j'ai envie de dire, malheureusement, ce sont souvent des gens que le pouvoir effectif intéresse peu. D'ailleurs, je pense que c'est probablement le problème de. Ça a été probablement le problème de François Hollande, quelqu'un qui.
C'est le jeu de cartes qui les intéresse.
Oui, c'est le jeu de cartes et en être. C'est un peu comme si des réalisateurs voulaient absolument être dans le cinéma et ne voulaient absolument pas faire de film.
C'est marrant que je vais te tutoyer parce que là, que tu cites Balzac parce que Une des manières que j'avais de résumer l'intention du film, c'était la physiologie. C'est-à-dire que Balzac a écrit physiologie d'un employé de bureau, et la physiologie était un genre littéraire. Et le genre, c'était non pas raconter le destin d'un individu, mais raconter le destin au sens large, mais d'une fonction. Et l'exercice de l'État est en fait une physiologie. C'est-à-dire, on raconte un ministre, son directeur de cabinet. Bon, ils ont des noms, ils sont magnifiquement incarnés par autant les saluer. Mais la fibre, le cœur, c'est quand même cette normalité d'un ministre et de son conseiller, du cabinet, etc.
Et c'est pour ça qu'il y a un point commun dans votre film, Pierre Scheller. Il n'y a ni droite ni gauche. Volontairement, le film n'est pas situé.
C'est pas parce qu'il n'est pas nommé que ça n'existe pas.
Oui, mais Franck Louvrier, donc le conseiller politique de Sarkozy, vu, il a adoré. Oui. Michel Rocard l'a vu et l'a adoré aussi.
Oui, parce qu'à un moment donné, il y a d'autres choses qui se passent à côté de ce schisme. Ça veut pas dire qu'il n'existe pas, ce schisme. Mais en tout cas, il est là, on est aujourd'hui dans des politiques gestionnaires, depuis quelques années. Donc, on attend toujours une politique de gauche.
Moi, il me semble quand même que, dans l'exercice de l'État, les hommes politiques au pouvoir sont très clairement des gens de droite. Enfin, il me semble qu'il n'y a pas vraiment d'ambiguïté. Non.
Mais pourquoi ?
Parce que le Premier ministre le Premier ministre et le Président, ils ont des attitudes d'hommes politiques
de droite.
Et même Olivier Gourmet dans le film, on voit même à quel type de droite il appartient. Pour moi, ils ne peuvent pas être socialistes. Enfin, voilà.
Bah, surtout d'accord. Pour porter quand même la privatisation des gares.
Bon, la gauche a plus privatisé que la droite.
Alors, l'exercice de l'État.
C'est une chose.
Avérée.
Ah oui. Oui, c'est pas une blague.
Avérée. Non, mais j'entends bien dans les années 80.
Donc, c'est pas le marqueur, il n'est pas là.
Alors, autant votre film, Pierre Scheller, montre, donc effectivement, vous le disiez, le fonctionnement, la physiologie d'un ministère. Donc là, on est vraiment quand même dans le pouvoir, on va dire, visible. Autant le film de Nicolas Parizer, Le Grand Jeu, est plus dans les ressorts, pour le coup, cachés. Je vais redonner un peu l'intrigue, puisque Nicolas Parizer, vous mettez en scène un écrivain totalement sur le retour, incarné par Melville Popo, un quadragénaire qui a eu du succès une quinzaine d'années avant et totalement dans l'ombre désormais, qui se fait aborder, proposer un drôle de contrat par un certain Joseph Pasquin, alias André Dussolier, qui lui commande un livre, qui lui demande de rédiger une sorte de manifeste gauchiste. Une fois le livre écrit, Joseph Pasquin lui dévoile les dessous de son entreprise. Le livre servira en fait à déstabiliser le ministre de l'Intérieur pour le pousser à la démission.
Imagine que j'ai un ami député. Il tient absolument à faire passer une loi. La loi, évidemment, n'est qu'un prétexte. Ce qui est important, c'est que la loi va le faire exister, lui.
J'imagine.
Eh bien, il aimerait bien que quelqu'un, un expert, si possible, écrive quelque chose pour dire que sa loi est mauvaise, inutile, contraire à l'esprit de la République. Si un autre livre paraît pour le soutenir, c'est encore mieux. Ça veut dire que sa loi a un écho dans l'espace public. Autre cas de figure. Un livre paraît et dérange quelqu'un. On va me demander de faire écrire 2, 3, 4 livres sur le même sujet.
Pour démentir ?
Non, pas pour démentir. Pour brouiller le message du premier livre. Pour qu'il ne soit qu'un son de cloche parmi un concert de cloches et qu'on finisse par dire à chacun sa vérité. La liberté d'expression est plus efficace que la censure pour rendre inaudible ce que le pouvoir n'a pas envie qu'on entende.
C'était un extrait d'une séquence pour Ciné Plus, donc sur le tournage de votre film Le Grand Jeu, Nicolas Parizer. C'est André Dussolier, je le disais, qui incarne l'homme de l'ombre, qui tire les ficelles. Votre film est sorti en salle en décembre 2015, et ce qui est fascinant quand on réécoute cet extrait, c'est même presque vertigineux, c'est que ce personnage prophétise l'ère de ce qu'on appelle maintenant la post-vérité, popularisé par la campagne électorale de Donald Trump et que reprend d'ailleurs à leur compte certains des candidats à la présidentielle française, à savoir que la vérité devient une opinion comme une autre. Voilà, vous vous êtes nourri de quoi ? C'est votre imagination balzacienne qui va nourrir.
Non, je crois que malheureusement j'ai plus trop d'imagination, mais non, pour le coup, Comme effectivement dans mon film il y avait un complot, je me suis un peu plongé dans la littérature, soit je dirais pas complotiste parce que, mais disons qu'il en parlait et dans la littérature relativement récente et notamment dans les écrits de Guy Debord des années 80, notamment les commentaires sur la société du spectacle. Et puis après, en fait, ce moment-là, je peux l'avouer maintenant, je l'ai puisé dans une interview d'un éditeur des éditions Alia qui s'appelle, je crois, Gérard Bérébi. Voilà, qui parlait de ça et qui est quelqu'un qui justement a pas mal édité des écrivains situationnistes, voilà. Non, effectivement, ce qui est fou aujourd'hui avec ce qu'on appelle la post-vérité et Trump, c'est que disons que la manipulation et ce genre de choses existaient dans des sujets extrêmement stratégiques, c'est-à-dire dans le nucléaire, dans la politique française en Afrique, où là, effectivement. Un livre pouvait sortir sur tel point de la France-Afrique, et puis comme ça gênait, et ben on n'interdisait pas le livre, mais on en sortait 5 sur le même sujet. Là, le problème, c'est que en quelques années, probablement ça s'applique à pratiquement la totalité du discours politique, voilà. Et que effectivement la parole d'un Trump n'a aucune valeur, enfin elle n'a de valeur que quand il parle, et puis la minute d'après ça n'en a plus. Mais disons que la seule nouveauté par rapport à ce qui est dit par Dussolier dans le film, je dirais que c'est plutôt une question d'ampleur qu'une question de concept, c'est-à-dire que le concept de post-vérité, elle est déjà chez Debord dans les années 80, et je pense que même si on cherche, elle doit même déjà être chez Machiavel quelque part, en fait. C'est-à-dire que la manipulation des masses, comment faire pour qu'une information qu'on veut étouffer ne n'apparaisse pas, enfin je pense que c'est quand même vieux comme le monde. Disons, j'ai plutôt essayé dans mon film de montrer des constantes de la politique plutôt que de montrer des choses qui seraient extrêmement contemporaines. Dans mon film, il n'y a pas de blog, il n'y a pas de site internet. Ça parle pas pour le coup de choses comme la privatisation des services publics, etc.
Mais on y reconnaît quand même l'histoire du groupe de Tarnac.
C'est vrai,
De Coupa et du livre justement qui avait précédé l'insurrection qui vient.
Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Oui, mais pour le coup, ce que je trouvais intéressant dans cette histoire, c'était que c'était une affaire politique très récente dont le fondement était un livre. Enfin, à un moment donné, le livre était central dans cette manipulation. Et je trouvais intéressant qu'à l'époque d'Internet, des chaînes info en continu, etc., que quelque chose se joue qui ressemble pour le coup à un roman de Conrad ou même pour le coup, pour revenir à Balzac, à un roman de Balzac, c'est-à-dire on prend un poète comme ça, je sais pas, qui aurait pu faire la révolution de 1830 et puis il est manipulé sous le Second Empire ou je ne sais pas, et je voyais qu'il y avait quelque chose de presque intemporel dans cette affaire-là, quoi.
Bah, c'est un truc très américain aussi, hein, l'homme qui est harponné par son passé.
Oui, c'est, bon, ça c'est encore un autre aspect. Après je pense que c'est vrai pour tous les réalisateurs. À un moment donné, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il y a quelque chose, disons, de l'imaginaire américain qui nous influence, et notamment dans le cinéma politique, c'est-à-dire que, à de rares exceptions près, je pense que jusqu'à l'exercice de l'État, on a été très empoté en fait dans la représentation du politique. Et moi, j'ai fait mon premier court-métrage sur ce sujet-là en 2009. La situation était vraiment catastrophique. Et disons qu'il y a eu un retournement spectaculaire au moment, je trouve, de l'exercice de l'État ou de quelque chose de pratiquement nul, c'est-à-dire la représentation du politique, des milieux du pouvoir dans le cinéma français. On a fait un bond géant en un film, en fait, voilà. Mais en même temps, ce bond géant-là, aux États-Unis, il était déjà là. Il y avait déjà beaucoup de films qui étaient très crédibles, voilà.
Tous les cinémas du monde, c'est l'heure de l'entracte, mais restez à l'écoute juste après le flash. En compagnie des réalisateurs Pierre Scholler et Nicolas Parizère, nous continuerons à explorer la façon dont le cinéma représente le pouvoir et la politique.
Et après, qu'est-ce qui se passe alors ?
Tous les cinémas du monde. Sophie Torlotin, Elisabeth Le Quéré.
Bienvenue dans cette seconde partie de Tous les cinémas du monde, une émission spéciale consacrée cette semaine à la représentation du pouvoir des hommes politiques au cinéma. Nous sommes toujours en compagnie des réalisateurs Pierre Scholler et Nicolas Pariser, auteurs respectivement de L'exercice de l'État et du Grand Jeu. Pierre Scholler, pendant l'entracte, vous m'aviez dit que vous vouliez réagir et à ce que venait de dire Nicolas Pariser.
Oui, aussi de ce que de l'extrait que j'ai entendu. En fait, je crois que il n'y a pas de grand film politique sans de grands comédiens pour incarner ces personnages, parce que c'est des figures humaines difficiles à incarner.
Pourquoi c'est difficile à incarner?
La crédibilité de ce qui se passe, de ce qui se joue, et donner corps à des gens sans que, si vous voulez, ce qui est dans son entreprise et dans la mienne, il y avait un point commun, c'est qu'on n'a pas essayé de singer une figure politique nommée, ou un cas, un fait divers, que ça soit la maîtresse du président, que ça soit un ministre qui suicide, etc. On a essayé de fictionner, d'une certaine manière. Et donc, ça veut dire que le comédien qui est face au personnage, il doit imposer l'autorité qu'il raconte. Et il faut des comédiens d'autorité pour faire ça. Et c'est pas donné à tous les comédiens. C'est-à-dire que si vous voyez le comédien qui quelque part est en retrait de ce qui, du personnage qu'il essaie d'incarner, ça foire. C'est une des raisons de la faiblesse des films qui touchent au milieu politique, c'est que il n'y a pas eu assez de travail en amont pour donner du feu, du charbon, de l'énergie, de la complexité dans la psychologie du personnage ou dans sa figure, pour que ce personnage existe au niveau où il doit exister. C'est comme la mise en orbite d'un satellite. Si vous ratez l'orbite, ça tombe, ou c'est inopérant. Et la deuxième chose qui m'a frappé, c'est ce que je trouve très original dans votre démarche, c'est d'avoir situé la question du pouvoir et de rapport aux politiques sur le langage, même pas de la culture, au niveau vraiment du pouvoir sur le langage et du langage du pouvoir. Et ça, je trouve ça très original et plus que malin, quelque chose qui fait que le film donne à nourrir. En fait, nourrit profondément nous qui sommes saturés de représentations politiques qui viennent
du... On est saturés d'images aussi, peut-être.
On est saturés d'anecdotes, on est saturés de personnes. En ce moment, c'est jusqu'à la nausée pendant cette campagne. Et c'est une des difficultés aussi d'emmener le cinéma sur le terrain de la fiction politique. C'est comment faire oublier au spectateur tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a lu le matin, tout ce qu'il va lire après. Comment l'emmener dans un imaginaire et qu'il soit confortable et qu'il s'abandonne à cet imaginaire qu'on lui propose. Et ça, c'est vraiment dur. C'est partir avec des valises plombées et des haies devant soi et un chemin d'épines parce qu'on est tous, on est tous bombardés d'interviews, d'entretiens, de questionnements, d'anecdotes, voilà.
Et c'était ce défi-là, parce que comme le disait Nicolas Pariser, avant effectivement l'exercice de l'État, c'était quasiment nul. Enfin, il y a pas vraiment beaucoup de fiction. Non, il y en a certes, mais c'est très peu par rapport aux États-Unis. Les États-Unis où on a nombre de films indépendants ou vraiment commerciaux sur l'aspect peut-être très spectaculaire de campagne électorale ou des présidents américains. En France, il y en a peu.
Et le président?
Non, pour être honnête, il y a un endroit où c'est pas trop faible, je pense, mais malheureusement c'est un genre de film qui est pas très qui est pas extrêmement intéressant et qui est un peu oublié. C'est il y a eu du polar politique français dans les années 70, notamment avec Delon. Ouais. Et où on y croit même avec effectivement quand il y a des très bons comédiens. Mais en fait, je pense en réalité que c'est pas le problème du cinéma français, c'est que les cinéastes français intéressants, il se trouve que c'était des sujets qui les intéressaient relativement peu. Moi, il y a peut-être 100 films français que j'adore ces 20 dernières années ou 30 dernières années. Les grands cinéastes français ou même les bons cinéastes français, c'est pas des sujets que ça va intéresser spécialement. C'est l'impression que j'ai. Alors que aux États-Unis, Capra, John Ford, Preminger, il y a beaucoup de réalisateurs.
Frankenheimer,
oui, effectivement, il y a beaucoup de réalisateurs que ce sujet-là a intéressé. Donc il y a quelque chose qui c'est pas que le cinéma français est moins bon que le cinéma américain, pas du tout. C'est que j'ai l'impression qu'en termes d'individualité, mais même moi j'ai des amis réalisateurs, disons qui ont entre, on va dire, entre 30 et 45 ans ou 50 ans, voilà. En réalité, ils ne se voient pas ou ne se voyaient pas faire des films là-dessus, alors que sur plein d'autres sujets. Voilà, à un moment donné, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup ça.
Mais en même temps, je lisais récemment une interview de Raphaël Baquet, qui a fait un livre sur François de Grossouvre, et qui disait, c'est très étonnant, parce que quand on m'en a montré le scénario, que j'ai lu le scénario de Marc Duguin, on parlait de Grossouvre, mais pas de Mazarine. C'est quand même un peu compliqué. C'est comme s'il y avait quand même un petit peu plus de... Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est comme s'il y avait quand même plus d'autocensure.
Il y en a. France. Moi, j'ai croisé quelques réalisateurs qui m'ont dit qu'ils avaient essayé de travailler un sujet sur la politique et qu'ils n'étaient pas arrivés. Quand je vais voir Michel Blanc pour lui proposer le rôle, et il me dit, c'est le conseiller, celui qui m'intéresse, parce que à un moment donné, j'ai songé faire quelque chose sur Grossouvre. Donc le lien, oui, c'est-à-dire que il n'y a pas de dédain, si vous voulez, sur la question politique de la part des artistes. Quand vous parliez des polars des années 70, c'est Manchette, c'est l'extrême gauche en fait. C'est une lecture de l'extrême gauche qui vient. On peut aussi remonter à Renoir. Renoir était quand même quelqu'un avait une conscience politique affirmée, posée dans son cinéma. Romer fait. Dans un de ses films, un de ses personnages est un homme politique.
L'arbre, le maire et la médiathèque.
Oui, il est dans le titre même. C'est-à-dire qu'il y a, disons, c'est la question de la frontalité.
L'arbre, le maire et la médiathèque est juridiquement un film amateur. Hein. C'est-à-dire, c'est un film qui a été totalement autofinancé, qui n'a, je crois pas, même pas eu l'agrément du CNC et qui est sorti dans une seule salle au départ à Paris. Donc c'est un film très 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 marginal et dans la carrière de Romer et dans le cinéma français de l'époque. Mais c'est vrai que Romer, à un moment donné, et même L'Anglaise et le Duc, c'est un film très politique. Voilà.
Ouais. On parlait, vous disiez tout à l'heure, Pierre Scholler, il y a des films, mais pas forcément qui affrontaient la figure de l'homme politique presque suprême. Alors moi, je vais quand même remonter jusque dans les années 60, parce qu'il y a quand même un film qui a marqué, un film d'Henri Verneuil, Le Président. C'est une grande référence.
Mais bien sûr.
Avec Jean Gabin dans le rôle d'un président du Conseil décidé à faire passer une loi de moralisation de la vie publique.
La politique, messieurs, devrait être une vocation. Je suis sûr qu'elle l'est pour certains d'entre vous, mais pour le plus grand nombre, elle est un métier. Un métier qui ne rapporte pas aussi vite que beaucoup le souhaiteraient et qui nécessite de grosses mises de fonds. Une campagne électorale coûte cher. Mais pour certaines grosses sociétés, c'est un placement amortissable en 4 ans. Et pour peu que le protégé se hisse à la présidence du Conseil, alors là, le placement devient inespéré. Les financiers d'autrefois achetaient des mines à Djelidzer ou à Zohar. Eh bien, seuls aujourd'hui ont compris qu'il valait mieux régner à Matignon que dans l'Ouangui, et que de fabriquer un député coûtait moins cher que de dédommager un roi nègre.
Là aussi, vertige d'entendre cet extrait du président d'Henri Verneuil. C'est un peu, évidemment, 50 ans après, il y a un petit écho. Et pour le coup, la figure du président, bon, il y a celle de Gabin, elle est peu... On parlait de réticence tout à l'heure des réalisateurs français à sculpter, mais alors là, déjà à sculpter au milieu politique, mais alors la figure présidentielle. Voilà, est-ce que vous êtes déjà posé la question? Est-ce que vous pensez que c'est lié, au fait que la France est une ancienne monarchie et qu'il y a le caractère sacré du pouvoir? Ou est-ce que parce que c'est peut-être une figure peu fictionnelle, parce qu'elle est tellement évidente?
J'ai l'impression que soit on faisait une biographie, je sais pas, par exemple, si De Gaulle a été incarné par Bernard Farcy, voilà, plutôt bien d'ailleurs, je crois plutôt bien. Ouais.
Alors De Gaulle, c'est marrant parce que René Clément disait je peux prendre un acteur pour faire Hitler, mais pas De Gaulle.
Oui.
Pour Paris-Boutil.
Et De Gaulle, oui, pour Paris-Boutil, oui. Mais il est incarné, De Gaulle, dans Paris-Boutil.
C'est une silhouette.
C'est une silhouette.
Et dans l'armée des ombres, c'est une photo. C'est un mannequin avec une photo de.
Ça montre bien certaines choses. Après, l'autre grand rendez-vous manqué, c'est avec la guerre de l'Algérie. C'est pas qu'il n'y a pas eu de films. Il y a eu des films. Dans le premier film de Cavalier, il y a eu des films. Mais simplement, après, ça interroge aussi la place du cinéma dans la culture et dans la société. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous faites un film qu'il ait vu ou qu'il ait relayé ou qu'il ait accepté. Ou... Vous voyez, les films existent en fait plus qu'on croit. Donc moi, ce qui m'a frappé, c'est j'avais en tête par rapport à la question de la difficulté à faire un film comme ça aussi ancré dans la politique, dans le pouvoir, c'est que j'avais un peu deux référents qui étaient Le Caïman et Il Divo.
Comme par hasard, deux films italiens.
Deux films italiens, mais c'est normal, parce que là-bas, c'est une autre culture par rapport à ça. Une autre culture cinématographique et d'écriture. Et les deux films ont été un peu des échecs publics. Ils ont eu il y a eu un succès critique, mais il y a eu c'était des échecs publics. Je crois que Le Caïman est peut-être le film de Moretti qui marche le moins bien.
Le Caïman sur Berlusconi.
Sur Berlusconi. Et donc, ça veut dire que moi je prévenais tout le monde quand le film a commencé à exister, disant on est vous en faites pas, on est peut-être en train de faire quelque chose qui ne va pas marcher, mais on va quand même le faire, on va essayer de le faire de la meilleure manière, avec la meilleure énergie, le meilleur sérieux, le meilleur plaisir, à faire ce film et à le mettre, à lui donner l'énergie qu'il doit avoir, la vitesse, le travail, le soin, la précision, etc. Mais on ne savait pas où on allait. Même le distributeur ne savait pas exactement où on allait. Et il y a eu un effet un peu surprenant. C'est-à-dire que le film a touché et je ne pensais pas qu'il allait être compréhensible même. Même aujourd'hui, je ne suis pas sûr que je saurais le réécrire parce que il y a certains dialogues, même le dialogue qu'on vient d'entendre, c'est un peu précis sur ce qui se dit, et le vocabulaire, le niveau de langue et tout ça. Et je me disais, mais qui ça va intéresser? Et en fait, Et surtout, est-ce que ça va pas être assommant, sérieux, et les gens vont pas parler et vont sortir de là en disant ah oui bon d'accord. Et c'est un peu l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire ça a commencé à discuter dans la file d'attente et à la sortie des films du cinéma. Et là il y a quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire le film, c'est pas qu'il a libéré une parole, je crois pas à ça, mais je crois que le film a désigné quelque chose qui était finalement un territoire qu'on connaissait, qu'on soupçonnait, mais comme il y avait pas une intention idéologique, parce que faudrait aussi parler de ça. C'est-à-dire que le cinéma politique, à un moment donné, il a été capturé par les cinéastes idéologues.
Ou par les cinéastes engagés,
je les appelle comme ça, voilà.
Fiction de gauche, entre autres.
Ouais, ou il y a eu aussi de droite, hein. Il y a eu des fictions de droite. Et juste pour équilibrer.
Non, vous vouliez pas faire un tract, c'est ça que vous voulez dire. Vous, votre film n'est pas un tract, justement.
Il n'est pas un tract. Je me suis posé la question, est-ce que il y avait une action politique en faisant ce film ou pas? Où était ma place de citoyen, Et je me suis dit, non, il faut pas confondre, justement. Dès que je sentais que j'allais vers un terrain où on avait un peu une parole politique trop affirmée, trop énoncée, je pense que ça fuyait. Et que justement, c'est pas un truc sur la neutralité. C'est juste que je crois qu'un film n'est pas une action politique. Une action politique est une action politique. Un film est une histoire de langage, de représentation, d'image, d'émotion, de récit. C'est ça que j'essayais de pas perdre de vue. Et je le disais à tout le monde, même si à la pause déjeuner, on s'engueulait politiquement. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est un film au sein du politique.
En fait, il y a un des gros risques du cinéma politique, c'est celui de la lourdeur, en fait. Et parce que la lourdeur, elle est contre-productive. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un film vraiment arrive avec ses gros sabots, quand bien même on est en total accord avec le metteur en scène, il y a presque une attitude de rejet par rapport au film alors pas par rapport à ses idées, mais voilà, moi j'ai tellement peur de ça, d'une certaine manière, de la lourdeur, de quelque chose de profondément contre-productif, que j'essaye que si message il y a, il soit vraiment à 4 ou 5 bandes et qu'il soit le plus complexe possible, parce que quand on fait un film qui parle de politique, on peut très vite avoir l'impression qu'on nous tape dessus avec un marteau pour faire entrer une idée, ce qui est quand même le à mon sens, c'est quand même le contraire du cinéma.
I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
C'est un extrait de la la bande-annonce de la saison 5 de House of Cards, la série américaine avec Kevin Spacey, initiée par David Fincher. C'est une série sur le pouvoir, sur la présidence américaine. Là, on parlait tout début d'émission du personnage cynique. Là, je pense qu'on est en plein dedans. Et on se demande, alors c'est la question que je vous pose, si vous faites des films, mais est-ce que le format série télévisée n'est pas un bon format pour raconter le pouvoir?
Moi personnellement, j'ai regardé pas mal de séries il y a une dizaine d'années, et notamment The West Wing à la Maison Blanche, qui a quand même une grosse influence sur en tout cas certains de mes courts-métrages. Et pour le coup, le format feuilletonesque était très très adapté à ça. Après, à House of Cards, le personnage principal est tellement cynique qu'il y a un effet presque déréalisant, et on se retrouve presque il y a quelque chose de très très moi qui me gêne dans l'époque, c'est de dire ah oui, c'est formidable, j'ai vu House of Cards où le président des États-Unis assassine de propres mains une journaliste, et puis après de dire Fillon lui a offert un costume à 5 000 euros, c'est honteux. C'est-à-dire que il y a une espèce de disproportion entre les deux, c'est-à-dire que étant donné que la série est tellement, elle a un effet tellement cathartique qu'on s'imagine que tous les hommes politiques de la vraie vie doivent être des saints. Or, je pense que là où le cinéma, disons dans les films politiques que j'ai le plus aimé, pour prendre un exemple, Tempête à Washington d'Otto Preminger, qui est peut-être le plus grand film, disons, sur le monde politique, il y a cet équilibre très subtil sur la malhonnêteté de certains, le cynisme d'autres, et comment l'un dans l'autre, tout ça peut constituer malgré tout une démocratie. Voilà.
Une pause musicale dans tous les cinémas du monde, une nouveauté, Monnaie de singe, tirée du dernier album d'IAM. Le dernier album s'intitule Révolution, un titre et un album très politique.
The people had the right to control their lives and to control their destinies.
You can beat me or jail me, or even kill me.
On ne les voit pas là où on passe de branche en branche. Ils veulent que nos vies se déplacent en rang, surtout pas que leur et nos mômes dansent ensemble. Ou pire, s'amourachent et se fréquentent sans soupir.
Ils prennent nos grosses basses pour des tambours de guerre, alors ils nous la font perchés sur le mic, on observe et ça les énerve. Tout ce qu'ils attendent, c'est qu'on nous muselle et qu'on rentre dans le rang, si possible à grands coups de paix.
Tu sais, je vis de petits rien, leur gueule de petit saint. Veulent que moi, le petit singe, je devienne un petit chien. À leur guise, fasse le beau, donne la patte et la ferme sans dire un mot et rapporte leur balle.
Voilà. Est-ce nos écrits qui gênent? Est-ce une question de gêne? Une culture indigène qu'ils voient comme une chose indigeste? Non, désolé, y a pas de gun sous ma veste. Juste un cœur qui bat, qui ne veut pas qu'on le prive d'oxygène.
En volant des 4x4 avec des grosses basses dans le coffre, on est ces bêtes à 4 pattes qui font changer les modes. Si on voulait, on pourrait même faire pencher le vote. De cette jungle, on irait jusqu'à fissurer le socle, ouais.
Ton fils aime nos sons de macaque. Ta fille aime nos sons de macaque. Leurs potes aiment nos sons de macaque. Alors mange-toi du gros son de macaque.
Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane.
Comme un cerf-volant, on veut prendre les airs. Ici, pas trop souvent, on nous somme de nous taire. Ouais, mais ça, on sait pas le faire, ça les fout en colère. Alors, leurs médias s'en prennent à nos sœurs et nos frères.
À l'époque,
ouais,
on était ces ados, dans le métro, sautant les tourniquets. On a tué des guns, on n'a pas tout niqué. C'est juste qu'on était jeunes, sauvages et libres. Nos cris résonnaient dans le quartier.
Laisse-moi te dire que nos vies, c'est pas de l'eau de coco, poteau. Beaucoup voudraient bien nous attacher au poteau. Poteau, face à leurs bêtises, on brandit le stylo. Oh oh, on dirait que ça va pas.
Vous êtes bien à l'écoute de RFI, tous les cinémas du monde, en compagnie des réalisateurs Pierre Scheuler et Nicolas Parizère, pour parler des rapports entre cinéma et politique. Alors on l'a abordé un peu tout à l'heure, les rapports entre cinéma et politique, c'est aussi l'engagement, alors sans faire du cinétraque, mais l'engagement des cinéastes qui peuvent être en dehors de leurs films, impliqués fortement dans des dans des causes ou s'engager pour la campagne de tel ou tel. Est-ce que vous-même vous êtes engagé militant ou vous en gardez bien? Pierre Chaleur, tout à l'heure, vous disiez justement que l'exercice de l'État, c'était quelque chose que vous vouliez éviter forcément, quoi.
Du coup, c'est pas un geste politique, à part celui de proposer un film qui met en mouvement. C'est-à-dire, je pense que la politique, c'est au sens partout, celle qui est partout. Celle qui traverse tout, celle qui est ici, celle qui est dans une classe, c'est ce qui met en mouvement. C'est ce qui dégage un possible qui n'apparaissait pas là. Il y a un côté comme ça. Je pense vraiment, donc à partir de là, ça peut être dans tout objet. Par exemple, on parlait de cette espèce de lieu un peu absent du cinéma qu'est la politique, mais dans le théâtre, ça a été très fort. Le théâtre politique a été très fort et très inventif assez tôt, dans la peinture aussi. Donc, après, c'est une question de forme. En fait, si vous voulez, j'ai l'impression que ce qui est difficile, et c'est aussi parce que c'est la nature du cinéma et comment il est fait, c'est comment tordre une forme pour l'amener à aller sur ce terrain-là. Et pour moi, il y a un cinéaste référent de ça. Il y en a deux, en fait. C'est Chaplin, avec Le Dictateur, et Pasolini. C'est-à-dire, Pasolini est un vrai cinéaste politique, je pense. Et peut-être Le Chien andalou à sa manière, parce que Le Chien andalou est un film qui est au-delà du politique, qui est ultra politique. Parce que il arrive comme ça. Buñuel est aussi un grand cinéaste politique.
Ouais, Nicolas Parizeau.
Oui, en fait, il y a quelque chose qui me marque assez souvent au cinéma, c'est de voir des films. Alors l'inverse est plus rare, mais disons, mais encore, c'est pas vrai. C'est de voir des cinéastes de gauche qui ont des idées de gauche et disons dont le film pourrait être des films, disons, oui, des films de gauche. Et sur la manière qu'ils vont de traiter un personnage ou une situation ou dans leur mise en scène, enfin voilà, en fait vont être des films profondément de droite. Et inversement, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a des réalisateurs très très à droite qui à un moment donné sur un film, il va y avoir quelque chose qui va toucher en moi, disons l'homme de gauche, ça fait un peu le Costa Gavras, mais disons voilà
qui pas très bien à qui vous faites allusion.
C'est compliqué de faire allusion, mais il y a très clairement pour moi des gens qui font des films qui sont censés être des films pour les étrangers, pour je ne sais quel, pour les sans-papiers, etc. Et puis après, disons, par exemple, les rapports entre eux vont être que des rapports de force, d'humiliation, et il va y avoir une vision de l'humanité qui fondamentalement est une vision de droite. Donc moi, quand je fais des films, je n'essaie pas du tout de faire un film de gauche ou un film de droite, si j'étais droite, mais j'essaie de savoir où je suis et de trouver une forme qui est en adéquation avec ce que je pense et avec ce que j'ai envie de faire, parce que je suis souvent très troublé, voilà, par des gens qui font le contraire de ce qu'ils pensent, parce qu'en fait il faut pas croire qu'au cinéma il est facile de tout contrôler, c'est-à-dire qu'on a un contrôle sur un certain nombre de choses, mais il y a notre inconscient qui travaille beaucoup, et donc voilà, il faut faire très attention à ça, et certains films qui vont avoir un sujet généreux, un traitement apparemment comme ça humaniste, de gauche, etc., en réalité sur des choses beaucoup plus fondamentales, vont montrer un visage quasi fasciste, en fait, voilà. Et moi j'essaie de faire très attention à ça et de traiter des sujets comme je le sens, mais disons, c'est un peu comme ces peintres japonais, vous savez, on dit voilà, ils regardent la fleur pendant 30 ans et puis ils font le dessin en 2 minutes. Je pense qu'on essaie de se construire une éthique, voilà, et ensuite on fait le film en fonction de cette éthique là. Mais si on essaye de plaquer un message politique sur un projet, on a 9 chances sur 10 de faire le contraire de ce qu'on voulait faire.
Et vos prochains projets, Nicolas Parizeau, Pierre Chaleur, travaillent de nouveau cette matière-là, ou sont complètement...
Le prochain projet s'appelle Un peuple et son roi. Donc on va essayer de répondre à Elisabeth avec un film.
Ça se passe pendant la Terreur.
Non.
Pendant la Révolution française.
C'est les trois premières années de la Révolution française. C'est-à-dire la question du roi et la question du surgissement de la République.
Et donc, en fait, Versailles, l'exercice de l'État et ce troisième film, il faut les voir comme une suite.
Ça peut, ça interfère, ça. Oui, et les films se. Je pense qu'après parce qu'en fait c'est un projet en deux films, le film sur le projet sur la Révolution française, c'est un diptyque qui permettrait de couvrir les 6 années de Révolution, et après je crois que je passerai vraiment à autre chose.
Moi je tourne, si tout va bien, un film à la fin de l'année qui s'appelle Alice et le maire, donc voilà, qui parle aussi de politique.
Merci Nicolas Parizère et Pierre Scholler. Notre émission touche à sa fin, mais je conseille à nos auditeurs de découvrir vos films qui sont disponibles en DVD. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Lequéré et Sophie Torlotin. À la réalisation, Fanny Renard. On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma, pour la rediffusion de notre émission consacrée aux comédies musicales. D'ici là, bonne semaine à tous.
Tous les cinémas du monde. Sophie Torlotin, Elisabeth Le Quéret.